Tiens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des...
Whip,
des
clip, crop,
des,
bang,
des,
blanc,
et des...
Zip, shabam, pow, blanc, whiz.
Et oui, c'est nous. Vous nous avez reconnus, Pic Bulle. Toute l'énergie qu'on prend à piquer les bulles. Comme ça, ça explose. Voilà. Donc, c'est la dernière émission de la saison. C'est un petit peu triste. Bon, pas vraiment. Il paraît que c'est le temps des vacances et le temps des amours. Ça, c'est François Hardy. Je fais des citations, quand même, pour marquer notre culture. Donc, c'est l'instant choisi pour se remémorer les grands moments de cette année. Et il y en a eu beaucoup, quand même. Donc aujourd'hui, Pic Bulle se retourne sur ses ondes. Bon, ceux qui suivent, c'est bon. Nous allons faire le tour des BD qui nous ont donné du plaisir à nous et à vous, j'espère. C'est donc le jour d'un best-of. Je préfère le français, du meilleur de cette année. Voilà. Alors, faisons le tour de nos sélections, à défaut du Tour de France. Oh, c'était facile. Quoique en route, tout est en roue libre. Toujours chez nous. Voilà. Et puis, on a fait nos courses dans le passé de l'émission sans filet.
Hein? Sans filet garni.
Sans filet garni. Merci, Anne.
Oui, je t'en prie, Jean-Marc.
Donc, on va commencer tout de suite avec le premier album. Tout ça est en mémoire, je précise. Nous n'avons pas d'objet sur la table.
Oui, voilà, voilà. Donc, voilà. Effectivement, c'est comme tu dis, sans filet.
Sans filet garni, oui. On y va.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do.
Ça fait mal quand on marche dessus. Hein.
Oui, 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 tout à fait.
Ça, c'était la fille de Frank Sinatra.
Nancy.
Nancy Sinatra. Qui n'a pas fait grand-chose d'autre, mais bon.
Oui, c'est déjà c'est ça, resté. On s'en souvient. C'est ce qui compte, c'est qu'on s'en souvienne. Voilà.
Carrément bien. Et tout ça, c'était pour nous rappeler un ouvrage qui s'appelle Œil pour œil. Et on ne l'a pas sous la main. Ah, bon. C'est pas grave.
Allez, Jean-Marc.
Œil pour œil, c'était chez Glénat.
Oui, ça, tout à fait.
Très bien. Et c'était l'histoire d'une fille qui a perdu un œil et qui devient une sorte de tueuse.
Oui.
Voilà. Ça rappelle un peu Kill Bill.
Oui, tout à fait.
Un petit peu. Donc j'avais hésité pour la musique entre Nancy Sinatra et Kill Bill. Mais Nancy Sinatra, ça me paraissait un petit peu plus décalé. Alors c'était un graphisme extraordinaire.
Oui.
Noir et rouge.
Oui, et blanc. Oui.
Et blanc. Oui,
noir,
oui.
Blanc, rouge.
Voilà. C'est un drapeau, ça ? Non, c'est pas là. Mais c'était... en plus, à l'italienne.
Oui, tout à fait. Le format paysage, donc à l'italienne.
Pourquoi tu me reprends le format
Parce
paysage ?
Parce que Jean-Marc, j'aime te reprendre, tu le sais bien.
Wow.
Oui, voilà. Pour que les gens comprennent, oui, que c'est... oui, voilà. Ouais. Qu'effectivement, c'est plus large que haut.
Voilà. À l'italienne, c'est le terme d'imprimerie, hein ?
Oui.
Voilà. On est bien d'accord.
On est d'accord.
Et c'était un graphisme extraordinaire, très peu de texte.
Oui.
Très violent.
Oui. Et oui, une expressivité qui passe vraiment par le dessin, qui passe pas par le texte.
Qui faisait un peu penser à, je vais peut-être, on va peut-être pas être d'accord, à Frank Miller, quelque part.
Oui, en fait, c'est l'influence effectivement de Frank Miller, c'est-à-dire que c'est très graphique, il y a très peu de perspective, tout est extrêmement stylisé, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel, et l'essentiel est complètement mis en phase avec un récit ultra-violent. Donc on a effectivement une très forte expressivité. On peut même dire que c'est une forme, dans le genre bande dessinée, c'est influencé par le comics et le manga, parce que de toute façon, il y a une double influence. Hein. Je me souviens plus du nom de l'auteur, mais je crois qu'il était espagnol et il travaille justement aussi dans des séries de comics, donc notamment chez Marvel. Et il se trouve que effectivement, il a une expressivité qui est où il y a la double influence du comics d'une part et puis de l'autre du manga. Et donc l'histoire, Jean-Marc, ce sera intéressant de parler de l'histoire.
L'histoire de quoi ?
Ben de cette jeune femme qui se retrouve donc, s'est-il passé pour qu'elle décide de
se lancer dans une vengeance sanglante. C'est assez compliqué parce qu'au début, elle est dans le Grand Nord, je crois.
Alors,
elle a un mentor, quelqu'un qui la récupère, qui s'occupe d'elle.
Mm-hmm. Qui l'entraîne.
Qui l'entraîne et qui la renforce. Enfin, je simplifie un petit peu. Mm-hmm. Donc c'est une indication à la dure, quoi.
Oui.
C'est un petit peu un truc de samouraï, des choses assez complexes, quoi. Compliquées. Comme on dit en allemand, c'est la Schwarz Education, l'éducation noire. Mm. C'est-à-dire que, il faut avancer, quoi, c'est tout. En gros, je ne vais pas m'avancer sur terre trop loin, parce que ça devient un peu compliqué après.
Alors, moi, je dirais pour ajouter plus de détails à ta description, que c'est l'histoire d'une jeune femme tout à fait innocente qui tombe amoureuse dans l'entreprise où elle travaille, donc du fils du patron. Et il se trouve que elle pense avoir une histoire d'amour idéale, mais un jour elle est témoin donc d'une scène de torture et s'aperçoit que son amoureux en fait fait partie de la mafia locale.
C'est un torsionnaire.
Et donc voilà, exactement, c'est un torsionnaire. Et elle pense que lui n'est pas mêlé à la scène auquel elle a assisté. En fait, si. Et donc, elle se retrouve à être torturée, puis en fait exécutée froidement d'un coup de revolver dans la tête. Mais il se trouve que la balle ayant traversé l'œil et le crâne, en fait, ne l'a pas tuée. Donc, elle est jetée depuis un bateau dans la mer et elle se retrouve comme ça, accrochée à de la glace à la dérive. Alors, on ne sait pas vraiment dans quel endroit précisément ça se trouve, hein, mais elle est recueillie par un homme assez étrange qui vit donc sur une île dans un bunker et qui se trouve, on le saura à la fin de l'ouvrage, puisqu'il y a une deuxième petite histoire à la fin de l'album, qu'il s'agit d'un agent, d'un agent secret qui a été en quelque sorte mis au vert, qui s'est retiré et qui s'appelle Black Kaiser, donc qui évidemment est la personne entre guillemets idéale pour pouvoir l'entraîner afin qu'elle se venge.
Et ce qui est intéressant, c'est que quand elle s'en va, quand elle a fini sa formation entre guillemets, elle souhaite le revoir.
Oui.
Et lui, il lui dit non.
Non, je te souhaite de ne pas qu'on ne se revoie pas.
Voilà. Exactement.
Ce qui montre bien que, en fait, là où il est l'ami et le soutien, en fait, il sait très bien que dans d'autres concours de circonstances, il pourrait être son ennemi, en fait. Mm-hmm. Donc, elle va effectivement se venger.
Alors, elle va faire beaucoup de dégâts. Hein.
Oui, bah oui, voilà, elle va faire beaucoup de dégâts. Il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui constituent le réseau mafieux et effectivement, il faut qu'elle en dégage quelques-uns.
Mais qu'on se rappelle que c'est un très, très beau dessin.
Oui.
C'est très graphique.
Le scénario est très simple, hein, très linéaire. Mais il y a forcément le flashback qui explique justement pourquoi elle en est là et d'où elle vient, surtout quand elle doit raconter son histoire à Black Kaiser. Mais sinon, pour le reste, c'est extrêmement linéaire.
Alors le nom, il est intéressant, Black Kaiser.
Oui, parce que c'est à la fois anglais et allemand.
Oui, exactement. Mm-hmm. C'est là, parce qu'en allemand, on dirait Schwarz, Kaiser. Mm-hmm. Donc c'est la tête, parce que Kaiser c'est la tête, noir. Mm-hmm. Mm. Après c'est pas un coiffeur, hein. C'est pas Schwarzkopf.
Mm. Oui, bon, c'est un jeune aussi. Bon.
Oui, mais ça veut dire la tête
oui.
au départ. Mm-hmm. Ouais. Ok, moi je le recommande.
Mmh, oui.
Alors, pour les petits et pour les grands
Non, plutôt... Jean-Marc, non mais je rêve.
Plutôt pour les grands.
Plutôt pour les grands, oui.
Ouais,
oui,
parce
tout
que
à fait.
Ce n'est pas un livre pour enfants. Non,
non, non.
C'est un
du
tout petit peu violon.
Du tout, du tout, du tout.
Voilà. Donc, on va passer à autre chose, puis on va écouter un petit peu de musique, là.
Exactement.
Oh, pardon.
Jean-Marc, comment oses-tu aurez... J'allais parler, Jean-Marc.
Oh, excuse-moi. Vous aurez reconnu la musique de Furio, qui est de Ruchi Sakamoto.
Oui, exactement. Voilà. Et qui joue, d'ailleurs, justement, qui est également acteur.
Je peux même l'écrire.
Oui, tu peux même l'écrire.
Il joue dedans avec monsieur...
David Bowie.
David Bowie. Oui, regretté. David, oui, si tu nous écoutes.
Donc, Merry Christmas, Mr. Lawrence.
Voilà, c'est le titre original. Ouais,
oui, de ce très beau film.
Et donc, c'était pour nous rappeler, pardon de te couper la parole, pour nous rappeler une BD japonaise.
Oui, tout à fait, un manga et la référence à Furio. Enfin bon, ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale, Furio, mais c'est effectivement cet univers très particulier du monde japonais avec ses références anciennes, notamment la référence à cette ère féodale de l'ère Edo. Donc, où s'est mis en place en fait le système des shogunats et des samouraïs. Donc, j'ai choisi un album qui m'a beaucoup marqué lorsque nous avions fait cette émission avec Maxime sur les mangas japonais puis français. Il s'agit de Vagabond, qui est un manga de Takehiro Inoue. Donc, prépublié dans le magazine Weekly Morning en 1998.
Ça.
Pardon ?
C'est inouï, ça ?
C'est inouï. Ben, en fait, beaucoup de mangas sont prépubliés avant de devenir des volumes indépendants. Et il se trouve que cette série, commencée en 1998, donc, existe toujours et que nous sommes donc au tome 37 au moins. Et sont publiés donc, en France, traduits en français, aux éditions Tonkam. Donc Tonkam, T-O-N-K-A-M, voilà, et l'histoire est basée sur un très célèbre roman de Eiji Yoshikawa qui s'appelle La pierre et le sabre, donc qui date des années 70. Et en fait, si je parle de l'ère Edo, c'est parce que Vagabond raconte l'histoire d'un samouraï extrêmement emblématique de l'histoire japonaise, qui est donc le grand samouraï Miyamoto Musashi, qui donc, a marqué le tout début de l'ère Edo. En effet, l'ère Edo commence en 1600, donc à la suite de la bataille de Sekigahara, donc qui assied le pouvoir du shogun Tokugaya. Il se trouve que parmi les combattants, et surtout les combattants du camp des perdants, se trouve Shinen Takezo, donc, qui est le fils d'un grand samouraï, et qui en fait... est blessé sur le champ de bataille et va en quelque sorte s'enfuir parce que le propre du Japon de cette époque, c'est que en fait
celui qui perd doit mourir,
c'est-à-dire qu'en fait les soldats du camp des vainqueurs repassent généralement sur le champ de bataille pour achever les blessés. Donc lui est blessé, mais il décide de s'enfuir et donc il revient à son village natal et il est rejeté par les habitants justement parce qu'il est considéré comme déserteur alors qu'il a vraiment participé à cette bataille. Encore une fois, ça correspond effectivement à des mentalités japonaises très particulières.
Est-ce qu'on retrouve pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Oui.
Avec les kamikazes.
Oui. Et puis, je ne sais pas si j'aurais établi cette comparaison, parce que là, il s'agit vraiment... Disons que c'est une culture... Non, mais c'est,
dans l'armée japonaise, on ne se rend pas.
Oui.
Si on se rend, c'est ce qu'on est. Oui. Alors, les kamikazes, je vais un petit peu exagérer, mais autrement, on ne se rend jamais.
Oui. Bah là, c'est le honte, cas, mais oui, c'est une honte à ceci près que lui fait un choix ici qui va être tout à fait représentatif de sa personnalité, c'est-à-dire une personnalité qui est telle qu'il va en quelque sorte défier certaines règles de la société japonaise. Donc, comme il est pourchassé, il commence une longue errance. Donc, fils de samouraï, il va devenir ronin, c'est-à-dire un samouraï errant, avec un unique objectif, devenir le plus grand samouraï du Japon. Et c'est-à-dire être le plus grand bretteur. Et c'est là son immense obsession. C'est-à-dire
que le plus grand bretteur, c'est le plus grand combattant. Hein.
Le plus grand combattant, oui, 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 tout à fait. Sachant que, en fait, il va le devenir et il va vraiment bâtir sa légende autour de ses qualités d'escrimeur. Tout en sachant que, évidemment, ça va lui demander beaucoup de temps pour arriver à ce niveau. Donc on peut dire que Vagabond est un manga d'initiation qui amène un héros à découvrir en fait le monde dans lequel il se trouve, même s'il est, je dirais, complètement lancé sur la trajectoire de son obsession. En fait, il n'en reste pas moins une figure extrêmement humaine, c'est-à-dire que il tient aussi compte des personnes qu'il rencontre sur son passage. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de différents personnages qui ont chacun une histoire à apporter à un récit qui est quand même assez linéaire.
Même si lui connaît les codes.
Oui.
Les codes, enfin le fonctionnement de son itinéraire.
Oui.
Si tu veux. Et donc il n'est pas. Il n'est pas hors sentier. Enfin, il n'est pas. Il est complètement dans le truc. Il connaît exactement les codes. Il connaît. Il sait comment ça fonctionne.
Ne serait-ce que parce qu'il vient d'une famille. Comment dire, de samouraï, c'est-à-dire en fait privilégié, oui, d'une lignée effectivement, et de ce fait, il a reçu quand même une certaine éducation. Donc, il connaît les codes de la société japonaise. Simplement, il a une personnalité qui est telle que il s'en affranchit, tout en étant capable de pouvoir justement devenir une figure totalement légendaire. Donc ça passe évidemment par la rébellion, et une rébellion acceptée d'autant plus qu'elle est marquée par une personnalité totalement exceptionnelle, à la fois par sa personnalité. Donc il faut rappeler que c'est non seulement effectivement un très grand escrimeur, mais c'est aussi quelqu'un qui dans sa vie n'a pas rejoint de shogunat particulier. Il a toujours eu une trajectoire très solitaire, et en fait tous ses voyages sont marqués d'autres aspects de sa personnalité, tels que par exemple le fait qu'il était un excellent dessinateur. On a de très belles estampes qu'il a dessinées.
Oui.
Il était également un poète. Et donc, il a...
Par contre, il n'a pas de vie privée. Hein.
Non.
Quasiment pas.
Non, il n'a pas fondé de famille.
Non.
Non.
Mais on ne le voit pas, il ne fréquente pas.
Non, il ne fréquente pas. Effectivement. Donc le manga est particulièrement magnifique, puisqu'en fait, il est à la fois beaucoup dans l'action, mais en même temps, il est extrêmement lent dans son avancée. Et justement, ce qui est bien, c'est que... il a une espèce de, le dessin et l'attachement au personnage principal, mais aussi au personnage secondaire, parce que les personnages secondaires ne sont jamais négligés, est vraiment un attachement de l'auteur très, très intense. Et cette intensité, on la retrouve dans le style.
Mais la lenteur de l'avancement de l'histoire,
oui.
C'est une sorte de philosophie, c'est un petit peu.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le parcours intérieur.
Il y a beaucoup de réflexions.
Oui, c'est intérieure. Un personnage qui réfléchit énormément, effectivement, surtout dans sa rencontre avec un moine bouddhiste zen qui s'appelle Takuan Soho, qui lui aussi a existé et qui est connu donc, pour sa franchise et sa grande clairvoyance. Donc, et c'est lui qui, effectivement, va réussir à capturer donc, le jeune Takeso Shimen, donc en fait celui qui va devenir Miyamoto Murashi, donc le grand samouraï, et donc qui va justement être son professeur durant un an dans son monastère. avant que le jeune homme reparte sur les routes pour pouvoir défier d'autres grands samouraïs.
Après les armes, oui. C'est le côté philosophique un petit
exactement,
peu.
Exactement, oui, oui, tout à fait.
Qu'on va former.
Oui. Donc, je ne m'attendais absolument pas, j'ai été vraiment très surprise, je ne m'attendais absolument pas, en fait, à être aussi concentrée en fait, sur ce manga. C'est-à-dire que on prend beaucoup de plaisir à une lecture qui est lente, paradoxalement, alors que le manga que l'on connaît sur petit format est plutôt adapté à des lectures très rapides. Là, on prend son temps et en fait, on s'attache profondément à ce personnage et le dessin est vraiment absolument magnifique.
Je crois que c'était un manga dans le sens français
non,
de lecture.
Non,
à l'envers, pardon.
Oui, 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 tout à fait. Oui.
C'est le truc qui me renverse la tête.
Oui, oui, exactement, donc comme tu vois... Voilà, donc vraiment, c'est un classique hein, du monde des mangas.
D'accord,
et comme
c'est
je
très
le disais,
connu.
Il y a quasiment une quarantaine de volumes.
Alors, et une quarantaine de volumes, ça prend du temps. Hein,
oui.
Un petit peu.
Oui, mais on y va tout doucement, tranquillement. Voilà,
t'as
on apprécie.
Lu les 40 volumes ?
Non, je ne les ai pas tous lus. Mais j'espère un jour les lire. Oui.
D'accord.
Si j'ai l'occasion. Ouais.
Ouais. Mais quand tu seras au Sénat ?
Oui, voilà, exactement. Oui, quand je serai morte, c'est ça, quand je serai au Sénat.
Non, quand tu seras au Sénat. C'était du mot, pardon.
Oui. Ben, donc, je répète, donc Vagabond, donc,
ah oui,
de
la maison d'édition,
Inoue, donc aux éditions Tonkam.
Tonkam.
Aux éditions françaises. Tonkam, T-O-N-K-A-M.
D'accord. Eh bien, on va passer à la suite.
Oui.
Hein, un petit peu de musique, ça nous fera du bien.
Oui, un petit peu de musique, oui, effectivement.
Ben là, ça va, ouais, on va rigoler un peu. Bon, c'est pas...
Oui.
Vous aurez tous reconnu De Funès et Coluche qui sautaient dans le studio et
oui,
ça
voilà,
m'amusait follement.
Oui, 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 exactement.
Et
donc
c'était...
Il s'agit...
Oui. Voilà, pardon, excuse-moi.
Non,
vas-y,
je veux le dire, je veux le dire parce que c'est mon choix.
Oui.
C'est le générique du film L'aile ou la cuisse.
Voilà.
Ce que j'adore, c'est ma comédie française préférée.
Voilà. C'est mieux que Les Bronzés ?
Non, c'est différent bien sûr, mais c'est une délectation. Une délectation. Chaque scène est merveilleuse. C'est un du chemin. Hein.
Ouais. Tout ça pour parler de cuisine. Hein.
Oui. Ouais. Et de ton choix à toi.
Ouais, c'est mon choix.
C'est ton choix à toi.
C'est un mot anglais. Ouais, moi je me la pète un peu des fois.
Oui.
C'est starve, ça veut dire j'ai faim. C'est la faim. Et starve, c'est un peu, si vous connaissez les émissions de télé-réalité, où on voit des chefs de cuisine. comment ça s'appelle ? La cuisine en... Hein ?
Top Chef.
Non, mais non. Ceux qui s'énervent tout le temps. Voilà.
Ah oui, oui, Cauchemar en cuisine.
Cauchemar en cuisine.
Cauchemar
donc,
en
c'est...
cuisine. Ou Elkin Chun, oui, ouais. Parce que donc, Gordon Ramsay a fait voilà, plein d'autres est... émissions, n'est-ce
et
pas ?
Donc c'est assez violent.
Mm-hmm. Et, c'est les défis, en fait, de cuisine.
Et oui. Là, cette BD, Star, c'est un petit peu un parallèle à ça. Mm-hmm. Sauf que on est dans une société où on n'a plus à manger. Ça devient très compliqué. Les gens ont plus de fric. On pense un petit peu à Soylent Green.
Oui. Soleil vert.
Soleil vert, pardon. Oui. Je l'ai dit en anglais. Oui. Excuse-moi. Et donc, lui, il a une mission à la télévision qu'il a arrêtée. Et on vient le rechercher parce qu'il est... c'est un type qui est complètement fou. Hein. Et donc, il tue des animaux sur scène. On dirait Marité hein, à l'époque. Et il travaille avec sa fille. Donc, il est repris par la télévision parce que le type qui l'a remplacé est complètement... ça ne marche pas. Quand je, donc, on le rappelle.
Mais il aussi est... parce que son ex-femme, en fait, donc, a la main mise sur la production de l'émission. Et en fait, elle l'a coincé sur le plan juridique et financier. Donc, il est obligé de reprendre cette émission. Alors qu'il était parti, justement, en Corée du Sud pour se reposer et justement, lâcher cette émission. Oui.
Mais c'est vrai que le dessin est extraordinaire.
Le dessin est vraiment...
C'est très violent. Enfin, moi, j'aime bien.
Ben, c'est un comics, hein.
Oui, mais ça joue beaucoup sur, mal sur le sang. Hein. Oui. Il y a du rouge tout le temps. Et donc, il travaille avec sa fille sur le plateau télé.
Oui, disons qu'à l'une de ses émissions, il se trouve à l'utiliser, notamment dans le découpage d'un cochon. Oui,
ouais. On me rappelle bien. Et y a du sang partout, sur toutes les pages.
Oui.
Et en fait, ce qui est assez paradoxal et ce qui est un tout petit peu bizarre, c'est qu'il s'exprime devant des gens qui n'ont rien à manger.
Bah, disons qu'il a déjà en face de lui un public, parce qu'il y a le public du studio. Hein.
Oui, oui.
Il y a quand même, si tu veux, un effet... Il y a une double rangée de spectateurs. Il y a les spectateurs qui se trouvent là, qui appartiennent donc au haut du pavé, puisqu'on est quand même dans une société très oligarchique. Hein. Voilà. Et donc, il y a la rangée de spectateurs, c'est-à-dire ceux qui ont une vie plus difficile. Oui, voilà, exactement. Haute ville, basse ville, hein, on pourrait dire ça. Ville haute, ville basse. qui, eux, regardent la télévision et assistent à ce show. Voilà, donc il y a un côté effectivement très indécent, c'est-à-dire que c'est un personnage de rebelle. Ce qui le rend attachant, c'est que c'est un personnage de rebelle avec une culture très qui fait vraiment très rock'n'roll, mais qui en plus de ça n'est pas, comment dire, le vieux rocker sur leur tour, qui en fait est là uniquement pour faire du fric en utilisant son passé de rebelle.
Ouais.
Il est un vrai rebelle, c'est-à-dire qu'en fait, il est prêt par amour pour sa fille à finalement aller jusqu'au bout, quitte à se mettre lui-même en danger. Donc en fait, c'est un homme qui a un certain sens moral, paradoxalement.
Exact. Ouais, mais fait penser physiquement, ça me revient tout de suite, là, à Alice Cooper.
Ah, mais tu n'avais pas dit un peu Keith Richards à l'époque? Iggy Pop, on avait dit Iggy Pop.
Oui, mais là je pense à Alice Cooper, d'accord, quand il avait son serpent.
Ah oui. Non, mais Alice Cooper, il est un peu plus trash, moi je dirais.
D'accord.
Ouais, Alice Cooper, Mais en même temps, avec humour, hein, parce qu'Alice Cooper, il y a évidemment du
très
degré.
Intelligent.
Fermeture
de la parenthèse, on ne va pas faire une émission musicale.
Oui.
Hein. Mais c'est très graphiquement, j'ai trouvé ça superbe.
Oui, puis il y a une réflexion, il y a un fond. Il y a une réflexion sur le monde de la télévision, il y a une réflexion sur, l'évolution vers l'oligarchie de nos sociétés, c'est-à-dire d'un côté, peu de personnes qui ont tout et qui en font n'importe quoi, et de l'autre, l'immense majorité des gens qui n'ont rien. Et à qui, finalement, on a pompé tout.
C'est aussi le fait que ça nous arrive tous les jours.
Oui.
Sur la télévision, on te déverse un monde de consommation.
Oui.
Énormément.
Bah, si tu
alors qu'il y a plein de gens qui n'ont pas accès.
Oui. Bah, c'est sûr que c'est violent. Bon, Top Chef, c'est un côté assez intéressant. Mais avec des amis, on est toujours frappé, effectivement, quand ils vont dans le garde-manger, de voir toute cette bouffe qu'ils vont utiliser pour pouvoir faire leur réalisation. C'est sûr que bon, le côté esthétique n'est pas sans rappeler certains aspects qu'on connaît bien dans notre culture française, c'est-à-dire la gastronomie, voire la haute cuisine. C'est évidemment très marqué par la culture de Versailles, de Louis XIV, qui aimait manger avec des fêtes pas possible, hein, mais d'un autre côté, dans nos sociétés actuelles, ça fait un peu bizarre de voir que la nourriture quitte un peu son sens moral de nourriture nécessaire aux besoins humains. C'est-à-dire qu'on est loin de...
On est loin
de la charte de l'UNESCO, quoi, de l'homme qui doit... des droits fondamentaux de l'homme. Là, on est
On ferme la parenthèse après, mais quand on voit les déchets qu'on produit, c'est quand même assez hallucinant. Et je trouve que Starv en parle pas mal. Ouais, moi je le recommande parce que c'est un bouquin que je trouve très beau.
Enfin, oui,
très
le beau, personnage c'est principal pas... est très attachant. Après, il a un côté moi j'ai trouvé un peu horripilant, c'est-à-dire que bon, il se la pète rock'n'roll.
Ah oui, tout à fait.
Voilà. Puis la réconciliation avec son ex-femme est un peu artificielle, je trouve.
C'est un rocker.
Mais oui. Mais sinon, ça marche. Hein. C'est pas mal du tout. Oui.
Mm-hmm. Très bien fait.
Oui. Et toi, tu as aimé parce que tu voudrais en fait faire la même chose que lui.
Ah,
tu voudrais en
découper
fait.
Découper des cochons
voilà,
à l'antenne.
Qu'on t'offre. En fait, oui, c'est ça. Tu
ben,
demandes à ton fan club de t'offrir des cochons que tu vas découper voilà. à l'antenne dans Pitbull.
Ici, à Radio B,
oui,
on va voilà. découper des cochons
on
la prochaine fois.
On va découper des cochons, oui. Oui, oui, tout à fait. Oui.
Non, Pauline n'a pas l'air d'accord.
Pauline bon. Aime les cochons. Alors, je présente la musique. Ne m'interromps pas, Jean-Marc, c'est très désagréable. Donc, en fait, nous venons d'entendre quelques mesures absolument sublimes d'un très bel opéra de Benjamin Britten, qui est utilisé par la cinéaste que j'adore, Claire Denis, pour son film Beau Travail, sorti, je crois, en 1999, et qui méritait largement cette année-là d'être à Cannes. Et donc, j'en profite pour lancer un appel. Oui. Claire Denis fait des très beaux films et elle mérite d'être en compétition officielle à Cannes. Il est temps qu'elle arrête d'être ostracisée par ces messieurs organisateurs du
Je
festival.
Je sens ta colère.
Ah oui, 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 tout à fait. C'est insupportable. Donc, j'ai choisi Le Sommet des Dieux de Jori Taniguchi, qui nous a quitté,
encore
hélas. Ben oui, hélas. Ben oui, c'est comme Alan Moore. il y a Taniguchi et Alan Moore hein, dans mon
D'accord.
panthéon personnel.
D'accord.
D'accord, ok. Donc, Taniguchi nous a quitté, mais j'espère qu'Alan Moore, grâce à ses formules magiques de magicien, en fait, réussira à devenir immortel. Ça, c'est une parenthèse. En tous les cas, Taniguchi, lui, nous a quitté au mois de février dernier. Et c'est une bien grande perte parce que donc, c'est un grand mangaka, c'est-à-dire un grand faiseur de manga. Et Le Sommet des Dieux a été publié donc, dans la version française éditée par les éditions Kana, donc K-A-N-A, entre mars 2004 et mai 2005. Et ce sont pourtant 5 volumes d'une histoire absolument extraordinaire qui est ni plus ni moins que l'adaptation d'un roman. Donc, du roman du même titre de Baku Yume Makura. Donc, Maxime n'est pas avec nous aujourd'hui. J'espère qu'il me pardonnera ma prononciation donc des noms japonais. Alors, c'est l'histoire d'un photographe alpiniste, Fukamashi, qui se rendant à Katmandou, en fait, pense avoir récupéré, enfin avoir trouvé plus exactement, dans une boutique de souvenirs, l'appareil photo de l'alpiniste Georges Mallory, qui aurait donc, on ne le sait pas, et d'ailleurs aujourd'hui le mystère n'est pas résolu, qui aurait été le premier à escalader, donc à atteindre le sommet de l'Everest en 1924.
On ne sait pas s'il est mort en descendant
oui.
ou en montant.
Oui. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il aurait atteint le sommet et il serait mort, en fait, à la descente, ou est-ce qu'il serait mort avant d'avoir atteint
pas.
Le sommet? Et ça, on ne le sait pas. Et effectivement, il est décédé avec son technicien, Andrew Irvine, qui avait pour fonction de mettre au point les fameuses bonbonnes d'oxygène qu'ils ont utilisées. Parce qu'à l'époque, donc, il fallait trouver le moyen de pouvoir affronter ces sommets vertigineux, donc atteindre plus de 8000 mètres. Et pour cela, il avait été décidé d'utiliser des bonbonnes d'oxygène. Donc, Ont-ils été les premiers à atteindre le sommet du Mont Everest? C'est ce que, en fait, ce journaliste photographe veut résoudre. Et il va rencontrer à cette occasion, donc au cours de ce premier séjour, un alpiniste, Abu Joji, qui est un alpiniste japonais. Et donc, il est totalement sidéré de cette rencontre parce que, pour lui, ce grand alpiniste est un peu passé de mode, entre guillemets. Et donc, il est très étonné de le voir, donc au Népal. Et il décide, en fait, de mener une enquête sur lui. Donc, Fukamashi va rentrer au Japon et va mener une enquête sur cet alpiniste qu'il a croisé et dont il pense que lui sait où se trouve donc cet appareil photo. Et en fait, au cours de sa recherche sur cet alpiniste, il va découvrir... comment dire, il va découvrir qui il est à travers le témoignage de personnes qui l'ont côtoyé. Et c'est là où ce récit qui se voulait linéaire devient plus complexe et plus intéressant parce que c'est une construction qui va se complexifier pour finalement, à la fin, redevenir extrêmement limpide. Parce que l'histoire, c'est la façon dont Fukamashi va lui-même retrouver un sens à sa vie grâce, en fait, à cet alpiniste, donc Abu Joji, qu'il va suivre et avec lequel il va, au final, donc tome 4 et 5, faire lui-même l'ascension de l'Everest. Donc... le sommet des dieux, c'est vraiment un très beau portrait donc de l'alpinisme en général, ouais, à travers l'ascension de l'Everest, qui est l'ascension, je dirais, souveraine en fait des alpinistes.
Oui, mais c'est tout est dans le titre.
Oui, exactement. Le sommet des dieux, sachant que évidemment, on a droit et c'est vraiment extrêmement agréable à toute une découverte de la culture népalaise et de ce qu'elle entretient comme relation avec justement ces montagnes qui, avant l'arrivée des Occidentaux, étaient des montagnes sacrées dans lesquelles il était interdit d'aller. Et ce que le succès de l'alpinisme a amené le gouvernement népalais à faire, c'est-à-dire en faire un fructueux commerce. Donc ça, c'est vraiment tout à fait remarquable. Après, évidemment, il y a le style de Taniguchi, qui est un style complètement différent de celui des mangas. Bon, ce sont...
Je crois que les visages sont beaucoup moins stéréotypés.
Exactement, c'est-à-dire qu'on est sur une approche... en fait, on l'avait dit au cours de l'émission que nous avions fait sur les mangas, c'est que Taniguchi est un collectionneur de bandes dessinées, qu'il aime beaucoup la ligne claire, oui, la ligne claire, ouais. Effectivement propre à la bande dessinée franco-belge. Et de ce fait, on a un dessin qui est beaucoup plus réaliste et figuratif. Sauf... quand on est sur des pages où il y a des paysages. Là, on retrouve, c'est ce qu'on avait dit, le sens du paysage japonais, c'est-à-dire la culture zen qui magnifie totalement la nature. Et ça, c'est assez différent de la culture franco-belge qui fait du paysage une sorte de décor.
D'arrière-plan,
exactement. Et toute la partie du récit se trouve toujours, évidemment, au premier plan à travers un décor très descriptif. Là, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc voilà, c'est moi je l'ai découvert cette année alors que c'est quand même ce manga existe depuis plus de 10 ans, mais je le conseille très fortement, c'est totalement inoubliable, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour le décrire et donc comme je le disais, c'est édité par Kana.
C'est très fort. Oui, c'est très fort. Inoubliable.
Oui, c'est très fort, c'est très très fort. Donc ouais, vraiment je le conseille. Oui, Jean-Marc, oui. Tu me faisais des signes. Donc, veux-tu que...
C'est la danse du signe.
Oui, c'est la danse du signe. Donc,
Je pense qu'on va passer directement à...
À Z comme Don Diego ?
Ouais.
D'accord. Bon, ouais. Très bien. Alors, nous allons passer directement à Z comme Don Diego.
Voilà. Donc, on va d'abord écouter...
Donc, ça n'est pas directement. Oui.
Henri Salvador.
Oui, oui. Ok, Zorro. Très bien. Oui.
Dans mon fauteuil, je regardais le film à la télé. Un type nommé Jojo le Bouffi poursuivait la pauvre Suzy. Il la coince près de la Syrie et très méchamment lui dit:
si tu me donnes pas ton hanche en moins de deux, je vais te couper en deux.
Puis il l'empoigna.
Mais il la ficela. Il l'a mis sous la scie.
Et Zorro est
arrivé sans se presser. Le grand Zorro,
le beau Zorro,
avec son cheval et son grand chapeau,
Mais bientôt, j'ai pris la deuxième chaîne, car un vieux schnock parlait. Charmante soirée, sur la deuxième chaîne, il passait le même navet. Près d'une cabane, Joe le Bouffi coinçait la pauvre Suzy. Il lui disait
« Donne-moi ton manger, poupée, ou je te transforme en purée !»
Puis il l'empoigna. « Mais la fille, là !» Il mit le feu à la dynamite.
Alors, on ne saura pas.
Et comment il s'appelait, ce monsieur qui chantait là?
Bah, Henri Salvador, évidemment.
Ah, c'était oui. Zorro.
Oui, 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 Zorro.
Ah, mais ça tombe bien, parce qu'on allait parler de...
On allait parler de lui.
Qui s'appelle... c'est pas tout à fait ça, parce que... Z comme Don Diego.
Z comme Don Diego, oui.
On nous livre tout dès le départ. On sait que Don Diego, c'est Zorro.
Oui, exactement. Voilà. Bah, de toute façon,
dans la série télé, ça a mis longtemps.
Ah oui, 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 bien sûr. Eh bien, tu devais regarder la moitié d'un épisode.
Non, non, jusqu'à ce que sa famille le sache.
Ah oui,
et son
oui,
père,
oui, oui,
ça, ça a mis très longtemps.
Là, tout le monde le sait, enfin, et tout le monde le nie. Alors, il s'agit d'une édition intégrale ici qui comprend deux albums qui sont parus tous les deux en 2012 et qui sont compilés en une édition intégrale fort sympathique ma foi, aussi en format à l'italienne. Coup de foudre à la Hacienda. Pardon ?
C'est des strips.
Oui, c'est des strips, effectivement.
Pardon, excusez-moi.
Donc, de Fab Caro et Fabrice Herry, donc, qui ont, comment dire, les auteurs ont travaillé ensemble sur Zai 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 et Une année au lycée, donc une série qui a commencé en 2014. Donc, Fabrice Herry est né en 1973 à Perpignan. Il est enseignant et auteur de bande dessinée. Voilà, et donc il est agrégé docteur en histoire, Yukaidi, et participe à la revue numérique Mauvais Esprit. Alors, Fab Cara, autrement dit Fabrice Caro, lui est né également en 1973 à Montpellier, auteur complet, dessins et scénarios, musicien, etc. Donc, les deux ont collaboré pour une histoire absolument truculente, effectivement. J'adore ce mot un peu ringard, mais qui résume bien, effectivement, justement, cet album. Et là, on est sur, évidemment, une évocation tout à fait parodique, puisque, donc, on peut dire que le sergent Garcia est presque plus intelligent que Zorro, que le père de Zorro, lorsqu'il a un peu trop bu, hurle à la cantonade, à la taverne du coin, que son fils, c'est Zorro,
ouais.
Qu'il y a un humour un peu, proche de celui du trio des Inconnus, hein, c'est-à-dire très potache et complètement assumé. Mais ce qui fait la force de cet album, c'est que l'histoire est construite à propos de gars qui sont tous liés les uns aux autres. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que j'avais d'emblée aimé lorsque je l'avais lu, c'est que, ça traite vraiment un sujet. Il ne s'agit pas uniquement de gars qui ne seraient pas liés les uns aux autres, ça traite vraiment un sujet. Et donc le premier, c'est vraiment la vanité masculine dans les relations amoureuses. Et le second, donc la loi du marché, traite d'un sujet, le capitalisme, et en fait la critique à travers ce personnage. Et ça, c'est vraiment extrêmement fort.
Ça va très loin.
Ça va très loin, ça va très très loin. C'est-à-dire que c'est vraiment le comique au sens le plus... le plus utile, le plus pertinent et impertinent à la fois. Voilà. Donc, en fait, c'est des histoires construites à partir de gags qui s'enchaînent les uns aux autres et qui, en fait, vont de plus en plus loin. Et on rit de plus en plus, en fait, à chaque gag. Et on se dit toujours, mais comment va-t-il se sortir de ce mauvais pas ?
Donc, ça se dévore complètement. Hein.
Oui,
ça,
moi, j'ai exactement.
Lu très, très vite.
Oui, 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 ça se lit très vite et en même temps, on prend beaucoup de plaisir à le relire.
Et voilà. À regarder le dessin aussi.
Oui, 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 exactement. Donc, ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est que justement le dessin dont tu parles est une ligne claire avec des parties plus hachurées pour créer un effet d'ombre et donc un effet de relief. Et puis, donc, la page de garde annonce les couleurs qui sont encore des hommages. J'avais vu plusieurs hommages, en fait. Dans la page de garde, tu as des portraits de différents personnages et tu vois tout autant Zorro, Fantomette, que Harry Potter,
comme
Batman, Dark Vador.
Oui, parce qu'ils croisent des super-héros.
Oui, exactement.
Parce qu'il y a un super-héros qui vient
Il y a un super-héros, oui.
De l'ombre.
Qui vient lui faire de l'ombre avec sa nana et qui, effectivement, fait de lui une personne totalement obsolète, donc ringarde.
C'est une parodie des X-Men. Hein.
Oui, tout à fait. Oui, c'est Wolverine, effectivement, qui
Wolverine,
est parodié.
Pardon.
Et donc, le pauvre Don Diego se retrouve relégué à faire des annonces publicitaires dans une épicerie et faire des animations parce que, justement, il n'est plus le héros à la mode. Donc, encore une fois, il y a une critique sociale ville qui est vraiment acerbe. Et donc là, je parlais des pages de garde où tu as donc une série de portraits où justement les auteurs s'amusent en adaptant leur style à des personnages qu'ils aiment beaucoup. Donc tu vois, je citais donc Fantomette, Harry Potter, Batman, Dark Vador, Arsène Lupin, les Orglums aussi, hein, tu sais, les donc
en fait, c'est,
les Orglubes.
C'est une forme de culture universelle que nous, on connaît tous.
Exactement.
Tous ces oui. personnages, on les connaît.
Oui, oui, oui. Et c'est ça qui fait à la fois la force de cet album et son côté très, très attachant. C'est que, en fait, oui, il y a de multiples références parfaitement assumées et en même temps qui ne sont pas copiées, qui sont assumées et qui ne sont pas copiées. Donc, la mise en page, c'est un gag par page dans un format à l'italienne. Donc, tu as deux strips, c'est-à-dire qu'en fait, tu as donc six cases. Et c'est ça, la difficulté, c'est d'arriver en un nombre de cases qui est toujours le même à faire un gag. Donc, on peut dire qu'il y a vraiment le système du running gag, c'est-à-dire, et du gag incrémental, j'aime bien cette expression, pour traiter la problématique de la stratégie amoureuse. Donc, le sujet est vraiment traité. Voilà. Donc, on peut dire que Zorro est à la fois nul, totalement sympathique et en même temps très héroïque, c'est-à-dire qu'il représente un peu le loser, voire par moments le has-been, mais qui traîne avec lui quand même des valeurs humaines intéressantes. Voilà.
Puis il y a les séquences de séduction quand Don Diego joue de la guitare.
Oui.
Ces choses-là qui sont complètement ridicules.
Oui, tout à fait, mais très attachante encore une fois, parce qu'on s'y retrouve un peu hein, quand effectivement on tente d'éblouir la personne qui...
Tu aimerais qu'on te fasse la sérénade ?
Ça dépend, de qui ?
Bon.
Et ça dépend de la façon dont la personne joue.
On en reparlera.
Oui.
Bon. Et donc c'était Zorro, ça ?
Oui.
On a fini ? Alors on va peut-être terminer sur un truc assez bizarre, vous allez voir. Donc, c'est Batman contre Dracula.
Oui.
C'était juste pour vous envoyer un petit baiser. C'était Kiss.
Voilà. Oui.
I was made for loving you. Alors, c'est une histoire d'amour, mais c'est un peu compliqué, là, ce qu'on va vous présenter, parce que c'est Batman qui rencontre Dracula. J'avais envie d'en parler, parce que ça, c'est un album qui m'a...
Oui, toi, tu avais complètement flashé sur la couverture.
Ouais, c'était très beau.
Ouais, ça t'avait plu. Ouais,
très
ouais.
chouette.
Très chouette.
Voilà. Donc, c'était édité chez Panini. Oui.
Oui.
Ça, on ne le dit pas assez. Et donc, c'est Batman rencontre Dracula. C'est quand même des rencontres qui n'étaient pas faciles. Batman, il faut savoir que ça veut dire la chauve-souris. Mm. Excusez-moi de traduire.
L'homme chauve-souris.
Yes, pardon, merci. Et Dracula, apparemment, ils ne sont pas au même endroit. Sauf qu'il y a un film, quand même, où Dracula arrive aux États-Unis.
Mm. Oh, pff, des films où Dracula arrive aux États-Unis, il y en a des tonnes. Hein. T'as Dracula 2000.
Non, mais
2000.
Le premier.
Oui, le premier.
Avec. Bon, peu importe. C'est pas grave.
Ah non, c'est plutôt en Angleterre, en fait, d'après le récit de Bram Stoker.
Ah mais oui, mais Dracula, il se promène beaucoup. Hein.
Oui. Ah, mais tu l'as aussi aux États-Unis, oui. Oui. Mm-hmm. Tu as de multiples variantes.
Ouais, tout à fait. Et donc, ben, Batman va rencontrer Dracula, ça
oui,
va pas lui
réussir. Oui, c'est un one-shot.
Oui, c'est un one-shot, et puis c'est... On va peut-être le dévoiler un peu vite, mais c'est la fin de Batman. Hein.
Oui, bah, du parce fait que c'est un one shot, l'auteur va carrément au bout, ouais. de cette rencontre, c'est-à-dire c'est en trois parties, il y a trois récits qui s'imbriquent,
qui sont dans le même album.
Oui, exactement. Voilà. Oui, tout à fait, ouais. Et qui traitent justement de la damnation de Batman.
Voilà, c'est un peu. La damnation de Faust.
Oui, la damnation et la néantisation. C'est-à-dire, vraiment, là, il invente une fin totale pour Batman.
Mais en fait, Batman et Dracula, c'est la même famille.
Bah, il fait des analogies pour pouvoir, justement... Ouais. Mais en même temps, c'est toujours la même chose dans beaucoup de one-shot ou même encore de... C'est que Batman est toujours mis à l'épreuve, des limites de son sens moral.
Exactement. Et justement, est-ce que la rencontre avec Dracula, c'est pas une forme de soulagement ? Peut-être que j'ai un petit peu loin là-dedans. C'est-à-dire que Batman est dans sa vie, et il a que
des deuils,
des épreuves, des deuils, etc. Mm-hmm. Et en fait, quand il rencontre le baiser du vampire,
oui.
C'est presque un soulagement. Bah, moi, je peux le percevoir comme ça. En plus, il y a son fidèle valet, Alfred, qui va essayer de l'aider. Mmh. Ça ne va pas, quoi. Ça n'avance pas.
Bah, disons que Alfred joue un rôle très... Enfin, il a toujours un rôle particulier, qui est celui, évidemment, d'aider et de guider son maître, puisque c'est également, dans l'histoire de Bruce Wayne, son... précepteur, enfin je sais pas, c'est lui que, oui voilà exactement, c'est lui qui l'a élevé, et donc là il a un rôle assez particulier, c'est que comme les récits vont à chaque fois plus loin dans la damnation de Batman, Alfred qui a contribué, Batman étant vampirisé, a tué Batman à la demande de celui-ci, et bien Alfred en fait ressuscite Batman pour un ultime combat. Parce que malgré tout, le vampirisme, on le sait, hein, c'est une contamination. Et donc, il s'agit justement de sauver Gotham et d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire en fait d'éradiquer totalement et complètement donc le crime de Gotham. Parce que le propre en fait du vampire, c'est qu'à partir du moment où on devient vampire, on n'est plus un criminel comme un autre. C'est-à-dire que pour se débarrasser du vampire, il faut le tuer.
Mais voilà. Il faut le pieux.
Oui, voilà, mais ça veut dire qu'il faut le tuer. On ne met pas un vampire en prison. On ne l'emmène pas à l'asile d'Arkham. C'est-à-dire qu'il faut totalement s'en débarrasser.
Ça fait.
Et donc, c'est pour ça qu'à la fin de ce one-shot, eh bien, tous les vilains, finalement, sont éradiqués. Alors, bon, c'est sûr qu'effectivement, les personnes qui ont envie de lire cet album se diront « Mais pourquoi il nous raconte la fin ?» Mais en fait, c'est le parcours qui est le plus intéressant.
Ce qui est intéressant, c'est aussi tous les personnages qu'on croise.
Oui.
Parce que c'est comme si Batman faisait le tour de sa vie,
oui.
Quelque part.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a tout, le Joker, le Pingouin, etc. Et tous
mais
ces
c'est
personnages
propre au one-shot. Qu'on... De toute façon, ouais. Tu prendras Grant Morrison avec Arkham Asylum, au début des années 80. Ouais. Tout à fait, lorsque Batman se retrouve enfermé à l'asile d'Arkham suite à un chantage du Joker. En fait, il les croise tous. Dans les one-shots de Batman, tu as toujours cette galerie qui interroge Batman sur ce qu'il est.
Souvent, dans l'album dont tu parlais, finalement, c'est le monde de Batman. Il appartient à ce monde-là, avec ces gens-là.
Oui.
Il est aussi fou, ces gens-là, enfin, entre guillemets.
Oui. Mais il les contient, en fait.
Ce qu'on lui renvoie souvent, d'ailleurs.
Mm-hmm. C'est ce que le Joker aimerait bien lui faire admettre pour le faire basculer dans son camp. Mais en fait, ça ne marche jamais. Voilà.
Il nous a quitté, Batman.
Oui, il nous a quitté, c'est-à-dire c'est nous qui le quittons, plus exactement.
Alors, nous, on va vous quitter, c'est la fin de la saison.
Oui.
C'est triste, hein.
Mais c'est les vacances.
Bof. Alors, on va se quitter avec on va changer le générique, là. Mm-hmm. Un morceau des Beach Boys qui nous dit « Surf is up ». Le surf, c'est fini. Mmh. On reviendra surfer sur les ondes.
Oui.
À la rentrée.
Ouais. Voilà.
À bientôt.
À bientôt. The diamond necklace played the pawn, and a handsome drummed along wall to a handsome man at baton. A blind
aristocracy. Back through the opera glass, you see the pit in the pendulum drum. Is lost for now.